Et l'on débute avec le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Theresa May est en sursis, mais elle résiste encore. Hier, elle a survécu au vote de défiance de son parti. Une semi-victoire, car la première ministre britannique reste extrêmement fragilisée. Aujourd'hui, à Bruxelles, elle va tenter d'obtenir l'aide de ses partenaires européens pour faire accepter l'accord du Brexit à ses députés. Sauf qu'il n'y a plus rien à négocier. Nous ferons le point avec Antoine Gignot à Londres et Quentin Dickinson à Bruxelles.
En France, la recherche du suspect de l'attaque de Strasbourg continue. On en sait un peu plus sur son profil, qui n'est pas celui du djihadiste type, selon certains sociologues.
Et puis nous irons à Mantes-la-Jolie, dans le quartier du Val-Fouré, où des mères d'élèves, interpellées et filmées la semaine dernière, organisent des manifestations. Après ce journal, Guillaume.
Eh bien, la question du jour, que serait un Brexit sans accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni? Nous poserons la question à Vivien Pertuzot, il est chercheur associé à l'IFRI.
Elle a pour ainsi dire sauvé sa tête. Hier, la première ministre britannique Theresa May était l'objet d'un vote de défiance de la part de son parti, un vote lancé par les frondeurs conservateurs. Au total, elle obtient 200 voix de soutien, mais 117 de défiance. Une position qui reste donc très inconfortable pour la première ministre, qui se débat depuis plusieurs jours pour tenter de faire voter l'accord qu'elle a négocié avec les Européens sur le Brexit. Et même si ce vote ne l'a pas forcée à démissionner, la marge de manœuvre qui lui reste est pour ainsi dire inexistante. Les précisions à Londres d'Antoine Gignot.
C'est une première ministre en sursis qui apparaît sur le perron de Downing Street. Pour sauver sa tête, Theresa May a promis aux conservateurs de démissionner avant les prochaines élections législatives en 2022, le temps de lancer le processus de sortie de l'Union européenne.
Maintenant, il faut qu'on avance, qu'on mette en place le Brexit pour construire un meilleur avenir pour ce pays. Un Brexit qui nous rassemble au lieu d'accentuer les divisions. Et ça doit commencer dans ce Parlement, à Westminster.
Car en réalité, rien n'a changé. Theresa May n'a toujours pas la majorité nécessaire au Parlement pour faire valider l'accord qu'elle a négocié avec Bruxelles. Les débats sont toujours bloqués, explique Jacob Rees-Mogg, le chef de file des conservateurs rebelles.
Elle devrait aller voir la reine urgemment pour lui dire qu'elle démissionne, parce que si la première ministre n'est pas capable de faire passer un projet de loi au Parlement, si elle n'a plus la confiance des députés, elle doit laisser sa place.
La seule porte de sortie de la première ministre, c'est son entrevue ce soir avec les chefs d'État européens. Elle aura au total 10 minutes pour les convaincre de l'aider à modifier le texte sur le Brexit.
10 minutes, ça n'est pas beaucoup, mais il est vrai qu'il s'agit d'un exercice de communication, bien plus qu'une négociation. Ce sommet européen prévu aujourd'hui à Bruxelles, en effet, était censé aborder bien d'autres sujets que celui du Brexit. Et le chef du Conseil européen, Donald Tusk, avait prévenu « Tout ce qui était négociable a été négocié. Hier, Angela Merkel a renchéri. Il ne faut pas espérer de changement. » La question qui fâche en Angleterre, c'est celle du backstop, un filet de sécurité en forme de zone douanière unique dont ne veulent pas les partisans d'un Brexit dur en Angleterre. Bonjour Quentin Dickinson.
Bonjour Anne-Laure, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Alors en résumé, il n'y a pas grand-chose à attendre, pour Theresa May en tout cas, de ce sommet européen.
Eh bien, Theresa May arrive ici à l'issue d'une tournée express dans trois capitales soigneusement choisies. La Haye, puisque les Britanniques ont toujours considéré à tort ou à raison que les Néerlandais sont leurs meilleurs alliés en Europe. Berlin, puisque même en fin de carrière, la chancelière fédérale reste l'arbitre du possible dans l'UE. Et Dublin, puisque le dossier irlandais concentre toutes les ambiguïtés du Brexit. À chacune de ces escales, il lui a été poliment rappelé qu'il n'était pas envisageable de modifier ne fût-ce qu'une virgule des deux textes qui composent l'accord sur le Brexit, texte que ses négociateurs et elle-même avaient accepté. Peu importe d'ailleurs, car l'intérêt pour Madame May, c'est de donner à ses concitoyens, à son Parlement et à son parti, surtout à son parti, l'illusion de l'action et d'un semblant de renégociation de la 11e heure. Et elle a obtenu un premier sujet de satisfaction, modeste mais réel, c'est d'avoir obtenu de Donald Tusk, président du Conseil européen, que l'on aménage une partie de celui-ci pour évoquer le Brexit, qui n'était jusque-là nullement inscrit à l'ordre du jour de ce sommet de routine de fin d'année. Le champ des clarifications réclamées par Madame May demeure toutefois limité. On ne voit pas quelle forme elle pourrait prendre, si ce n'est celle d'une courte déclaration commune des 27, pour souligner qu'en attendant la découverte d'une formule miracle, aujourd'hui encore à l'état de mirage, le maintien post-Brexit de l'Irlande du Nord dans le giron réglementaire de l'UE n'aurait pas vocation perpétuelle. En clair, que le temporaire est provisoire.
Quentin Dickinson à Bruxelles, merci beaucoup.
7h04 sur France Culture, la suite des matins avec le journal d'Anne-Laure Chouin. En France, la police diffuse depuis hier soir la photo du suspect de la fusillade de Strasbourg. Il s'appelle Chérif Chekat. Elle a lancé hier soir un appel à témoins. Quant aux informations sur son profil, elles arrivent au compte-gouttes.
L'homme a désormais un nom et un visage. 1m80, corpulence normale, la pommade, une marque sur le front. Toute personne l'ayant aperçu peut composer le 197, car il court toujours. Les forces de police n'ont pas réussi à le localiser. En attendant, donc, on en sait un peu plus sur son passé. Les précisions de Thomas Larabi.
Les enquêteurs ont pu identifier le suspect très rapidement. En effet, pendant sa fuite en taxi, Chérif Chekat s'est longuement épanché auprès du chauffeur qui l'a déposé dans un quartier du sud de Strasbourg après la fusillade. Il lui a notamment révélé que des policiers avaient retrouvé chez lui une grenade. C'est ce qui a permis aux enquêteurs de faire le lien avec une perquisition opérée le matin même au domicile du suspect. Une perquisition dans le cadre d'une enquête de droit commun pour tentative d'homicide. L'homme devait être interpellé, mais il n'était pas chez lui. La police y avait notamment retrouvé une grenade défensive, donc 4 couteaux ainsi qu'une arme de calibre 22 long rifle. Quant à son histoire, elle se dessine doucement. 29 ans, né à Strasbourg, il grandit dans une barre HLM de la cité alsacienne. Délinquant multi-récidiviste depuis ses 13 ans, 27 condamnations de droit commun, notamment pour des faits de braquage. Le suspect se serait radicalisé lors de ses séjours en prison. L'administration pénitentiaire avait signalé en 2015 une attitude prosélyte avec ses co-détenus. Il était fiché S et suivi par la DGS. Mais selon plusieurs sources policières, aucun signe de passage à l'acte imminent n'a été détecté. Ses parents et ses deux frères ont été placés en garde à vue. Selon France Info, un des frères de Chérif Chekat ferait partie de la mouvance salafiste de Strasbourg.
Et son attaque n'a pas été revendiquée pour l'instant. Certains analystes comme le sociologue Farhad Khosrokavar, directeur des études à l'EHESS, estiment que son profil ne correspond pas au profil type du djihadiste radicalisé. Écoutez-le interrogé par Didier Morel.
Dans son cas, le seul point qui pourrait donner le sentiment d'une radicalisation au sens religieux du terme, c'est la prison. Les autorités carcérales disant qu'il avait été radicalisé en prison, moi je crois que c'est faux. En prison, on confond souvent le fondamentalisme religieux et la radicalisation. Le modèle de radicalisation en prison est souvent maintenant un modèle silencieux, c'est-à-dire on ne montre pas. Lui, il était tonitruant, il faisait du prosélytisme, il pouvait attirer l'attention. Moi, je crois que dans son cas, c'est la provocation, un moment de désespoir, un moment de ras-le-bol. Ses copains ont été arrêtés, on allait l'arrêter lui aussi. Enfin, le matin, il était absent. Crier Allahu Akbar lui donne cette espèce de notoriété qu'il n'aurait pas. S'il n'avait pas fait cela, ça aurait été un fait divers tragique, mais un fait divers. On se réclame de l'islam radical parce que on sait très bien que vous avez la couverture médiatique partout dans le monde. Moi, je crois que ce cas-là se rapproche davantage de ceux qui se servent du djihadisme pour finir en beauté.
Le sociologue Farhad Khosrokavar, spécialiste du djihadisme. Le marché de Noël de Strasbourg restera fermé aujourd'hui. Ce soir, une célébration aura lieu à 18h dans la cathédrale en mémoire des victimes. On le rappelle, 2 personnes sont mortes, une troisième est en état de mort cérébrale. 13 autres personnes ont été blessées. Cet attentat de Strasbourg n'aura pas modifié le calendrier de la motion de censure à l'encontre du gouvernement. Le groupe socialiste à l'Assemblée avait en effet demandé de reporter le vote à cause de l'actualité. 3 groupes de gauche, PCF, France Insoumise et PS vont demander la défiance au gouvernement contre les annonces faites par le président de la République en début de semaine. Hier, dans la foulée de ces annonces, justement pour calmer la crise des gilets jaunes, plusieurs patrons de grands groupes, publics et privés ont été reçus à l'Élysée où le président leur a demandé de participer au soutien du pouvoir d'achat. Samedi commencera en outre la grande concertation qui doit se tenir avec les représentants des territoires sur le sujet, entre autres des services publics et notamment des services publics en milieu rural. Ce sera le sujet du reportage de la rédaction de Catherine Pétillon à 7h24. Elle a rencontré Sébastien, un infirmier libéral dans la Nièvre qui fait le constat de la faiblesse des services publics dans son département. Écoutez-le.
Malheureusement, à cause de toute la fermeture de ces services publics, on voit les gens moins venir dans le secteur. Par exemple, on a des retraités qui venaient des villes, qui au bout de quelques années repartent à l'extérieur et repartent dans les villes à force de se sentir en insécurité par rapport aux soins. Et en fait, nous avons nos taxes qui sont exactement les mêmes qu'en ville. Donc c'est très difficile à avaler. On se sent abandonné alors que nos territoires pourraient être très riches en fait.
Reportage complet à 7h24 et un sujet dont vous parlerez avec votre invité de la première partie des matins, Guillaume, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.
Absolument.
Les blocus lycéens se sont poursuivis hier. Aujourd'hui, le syndicat lycéen UNSDL a décidé d'annuler les manifestations suite à l'attaque de Strasbourg. À Mantes-la-Jolie, 5 plaintes ont été déposées contre les forces de l'ordre et une vingtaine d'autres sont en préparation. Sur place, les mères d'élèves sont toujours choquées par les conditions d'interpellation et de garde à vue infligées à leurs enfants filmés à genoux, les mains sur la tête pendant 2 à 5 heures. Dans le quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie, elles continuaient hier à se mobiliser. Le reportage de Cécile de Carvaz-Doué.
Police partout, justice nulle part.
Depuis le début du mouvement des lycéens, les mamans du Val-Fouré demandent des médiateurs au maire de la ville, mais sans succès. Le quartier sensible de Mantes-la-Jolie n'a certes pas connu de grandes émeutes depuis longtemps, mais l'interpellation filmée de 153 lycéens qui, dans l'immense majorité, ont ensuite été relâchés sans poursuite, fait craindre le pire à Rachida.
Depuis lundi, les mamans font des rondes dans les lycées. Elles essaient de canaliser. Ces gamins, j'entends souvent sur Internet, ils l'ont cherché. Faut pas qu'ils dégradent, faut pas qu'ils brûlent. C'est une poignée. Même cette colère, cette violence, est-ce qu'on peut pas l'écouter aussi? On est inquiète, on redoute un drame et on redoute surtout l'état psychologique des enfants parce qu'il y a beaucoup de traumatisés qui veulent plus aller à l'école.
Le fils de Rachida est resté agenouillé pendant plus de 3 heures jeudi dernier. Durant sa garde à vue, il n'a pas eu, comme le stipule la loi, d'assistance juridique ni la visite d'un médecin. Et puis il y aurait eu des coups de matraque et des insultes racistes, raconte Reda, élève de première au lycée Jean Rostand.
En fait, là, normalement, on devrait se venger, mais on le fait parce que ça sert à rien, donc on le fait pas. Mais c'est humiliant ce qu'ils ont fait, ça se fait pas. Quitte à nous menoter, nous on est directement au poste, ouais, mais pas à mettre à genoux, je n'en ai pas des chiens. Puis c'est des ripoux, ils aiment pas les Arabes et les Noirs.
Pour l'instant, seules 5 plaintes ont été déposées. C'est peu par rapport au nombre de lycéens filmés ce jour-là. Les gens ont peur, explique Harry Alimi, l'avocat des familles mantoises, car ce genre de pratique qu'il qualifie de néocoloniale n'a malheureusement rien d'exceptionnel.
Ça concerne Mantes-la-Jolie, mais ça concerne tout le département d'ailleurs, puisqu'il y avait une vraie culture d'extrême droite dans la police. Il y a eu un syndicat qui a même été dissous. Il y a eu un autre syndicat qui a été remonté par la suite. C'est le syndicat Alliance qui est le syndicat majoritaire aujourd'hui. C'est le syndicat qui appelle contre ces populations à un maintien de l'ordre renforcé, à un armement beaucoup plus important. On a vraiment une culture à Mantes-la-Jolie, c'est un symbole Mantes-la-Jolie.
Et l'avocat a demandé le dépaysement des plaintes car il souhaite que l'enquête sorte du département afin que les fonctionnaires de police impliqués puissent être réellement poursuivis.
Et Cécile de Carvaz-Doué. Le temps de ce jeudi, la pluie viendra par l'ouest et le sud. Sur le reste du pays, temps nuageux, des éclaircies au nord de la Seine. Côté température, des gelées ce matin entre moins 3 et 0 degrés du nord-est jusqu'à l'intérieur de la Normandie. Ailleurs, comptez de 1 à 7 degrés ce matin, de 1 à 13 degrés cet après-midi.
Merci beaucoup Anne-Laure Chouin. 7h12 sur France Culture dans quelques instants. Que serait un Brexit sans accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ?